et quelques secondes sur Inter. Le journal. Bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Le second tour de l'élection présidentielle, un choix historique sur fond de participation en Berne. À 17h, le taux de participation est de 63,23% des électeurs inscrits, plus de 2 points de moins qu'au second tour il y a 5 ans. C'est moins également qu'au premier tour il y a 15 jours. Et selon une première tendance de notre partenaire Ipsos Soprasteria, l'abstention nationale est estimée à 28%. Nous serons dans un instant avec Yael Gauze, chef du service politique de France Inter. Nous irons également dans des bureaux de vote et nous verrons comment les candidats et leurs militants se préparent pour cette soirée et cette nuit d'élection présidentielle au Bois de Boulogne et au Champ de Mars. Une soirée électorale à vivre et à suivre sur France Inter. Soirée spéciale que vous animerez, Claire Servageon, avec Jérôme Cadet.
Effectivement, avec Jérôme Cadet et bien d'autres. Yael Gauze, chef du service politique de France Inter, Thomas Legrand, tout le service politique, les reporters de France Inter sont sur le terrain. Stéphane Zumsteg, notre partenaire d'Ipsos Soprasteria, sera là pour vous donner dès 20h ses premières estimations. Il y aura aussi de nombreux invités politiques et deux politologues pour nous accompagner, Céline Braconnier et Rémi Lefebvre. Alors surtout, restez sur l'antenne de France Inter.
Et on vous dit à tout à l'heure dans l'actualité également. La guerre en Ukraine qui entre aujourd'hui dans son troisième mois. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, doit rencontrer à Kiev le président Zelensky qui demande plus d'armes. Et puis en sport, en cyclisme, Julian Alaphilippe a chuté lourdement lors de Liège-Bastogne-Liège. Le double champion français du monde français souffre au niveau du dos. La météo, encore des averses et des orages du centre à l'est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est donc l'épilogue dans un peu moins d'une heure maintenant d'une journée décisive de second tour de l'élection présidentielle, dénouement de cette 12e présidentielle de la 5e République avec de lourds enjeux et notamment la participation. Taux de participation à 17h, 63,23%. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Frédéric.
Chef du service politique de France Inter, 63,23% de participation. C'est en baisse par rapport au premier tour, 65%. En baisse aussi de plus de 2 points qu'il y a 5 ans à la même heure.
Et ce n'est clairement pas un bon chiffre. On en parlera sans doute ce soir. Le chantier démocratique sera l'une des urgences du prochain quinquennat, quel que soit le vainqueur. L'abstention qui progresse au deuxième tour de quinquennat en quinquennat, 16% seulement en 2007, 20% en 2012, 25% en 2017 pour le match aller Macron-Le Pen et sans doute plus, on sera bientôt fixé pour le match retour. En fait, il faut remonter à la préhistoire de la 5e République pour trouver un deuxième tour aussi peu mobilisateur. Le record d'abstention enregistré en 1969 pour la finale Pompidou-Poher, ce record-là, 31%, ne sera sans doute pas battu, mais on s'en approche. Le troisième homme à l'époque, le communiste Jacques Duclos, avait convaincu la gauche de rester à la maison parce que bonnet blanc et blanc bonnet, vous vous souvenez, la formule est restée célèbre. Alors jetons rapidement un œil sur la carte électorale. À 17h, 75 départements de France métropolitaine ont vu leur participation baisser contre 20 seulement où elle a progressé et un statu quo au centième près pour la Haute-Marne. La pire participation à l'heure du goûter, c'était la Seine-Saint-Denis, la Haute-Corse et le Val-de-Marne. La participation la plus forte pour l'Aveyron, la Dordogne et les Landes.
Alors selon une première tendance de notre partenaire Ipsos Soprasteria, le taux d'abstention cette fois est estimé à 28%. C'est beaucoup et c'est le signe, à Yael Gauze, d'une démobilisation assez rare hein, pour un second tour.
Bah oui, c'est seulement la troisième fois dans l'histoire de la 5e que la participation baisse entre les deux tours d'une présidentielle. Normalement, l'enjeu est tel qu'on se mobilise. Là, c'est le contraire. Alors qu'est-ce qui a joué? Trois zones scolaires en vacances le même week-end, mais ça n'est pas décisif. D'ailleurs, il y a eu un record de procurations. Non, c'est peut-être l'affiche qui a lassé les Français. Les 10 candidats du premier tour éliminés représentaient quand même plus de 50% du corps électoral. Il faudra regarder de près le nombre de bulletins blancs ou nuls. Le 7 mai 2017, un record avait été battu, 3 millions. Et cela disait déjà quelque chose de l'état politique du pays.
Yael Gauze, merci. Participation donc à 17h, je vous le rappelle, 63,23%. Taux d'abstention nationale estimé pour ce second tour à 28%. On va donc aller maintenant dans des bureaux de vote, voir comment s'est déroulée la journée. D'abord à Paris, bureau de vote dans le 15e arrondissement. Bonsoir Benjamin Ely.
Bonsoir.
Alors on vote encore à Paris et dans les grandes villes jusqu'à 20h. Y a-t-il eu beaucoup de monde ou pas aujourd'hui dans ce bureau de vote du 15e?
Alors pour reprendre le terme utilisé par un assesseur, c'est très fluide dans ce bureau de vote depuis le début de l'après-midi. On est donc dans le 15e arrondissement à Paris. Ici, vous entrez, vous votez, vous signez, montre en main, 5 minutes, pas de file d'attente. On voit passer les électeurs là qui accélèrent le pas, venir en fin d'après-midi glisser son bulletin dans l'urne. Vous imaginez à chaque fois, il y a une très bonne raison, un train qui vient d'arriver de Toulouse, 3 enfants à gérer toute seule, nous dit une maman, ou encore cette dame qui nous explique qu'elle avait jardinage. Mais voter malgré tout, malgré les contraintes, un devoir selon Laura, 74 ans, elle a voté à toutes les élections, sauf une.
Oh, une que je ne me pardonnerai jamais d'avoir raté, le premier tour...
2002. Alors c'est toi, vous êtes venu voter avec enthousiasme, avec un peu avec des semelles de plomb.
Pas de semelles de plomb, mais sans enthousiasme. Ah. C'est tout à fait triste, autant que je me suis aperçue qu'en questionnant les gens dans mon entourage, même au premier tour, il y a beaucoup de gens qui sont allés voter sans enthousiasme. Oui, c'est dommage. Ça veut dire qu'il y a une classe politique qui est peut-être plus tout à fait en adéquation avec la population.
Mais quand même, vous venez voter.
Ah, je viens voter.
Ça représente quoi pour vous de glisser ce bulletin ?
Pas une forme de responsabilité. Même un choix par défaut, il faut l'assumer.
Bureau de vote, là, il est très tranquille. Hein, vous avez pas attendu longtemps.
Non, moi, j'étais à celui là-bas. Mais autant la semaine dernière, il y avait des files d'attente interminables. Là, c'est vraiment d'une fluidité presque inquiétante.
La participation dans ce bureau de vote du 15e arrondissement à Paris dépasse à 7h les 73%. Au premier tour, 80% des inscrits s'étaient déplacés.
Benjamin Ely dans le 15e arrondissement à Paris. Merci. Direction la Haute-Garonne, maintenant à Toulouse, où comme dans certains départements du Sud-Ouest, la participation est plus faible encore qu'il y a 15 jours. On retrouve sur place à Toulouse Hugo Charpentier. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Faible participation, c'est aussi ce que vous avez constaté toute la journée à Toulouse.
Oui, on le disait, il reste moins d'une heure désormais pour glisser son bulletin dans l'urne. Le temps presse donc, mais à Toulouse, eh bien, ce n'est pas la foule des grands jours. Ça ne l'a même jamais vraiment été depuis ce matin, hein, dans la cour d'école où se trouve le bureau de vote numéro 37 d'où je vous parle ce soir. Eh bien, dans cette cour d'école, elle est régulièrement déserte depuis le début de la journée. Au dernier pointage, à 16h30, 460 personnes sur 800 inscrits avaient voté. C'est quand même 10% de moins qu'il y a 15 jours. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'un seul bureau de vote, pas de conclusion hâtive. On en saura plus ce soir concernant le niveau de participation à Toulouse. 250 000 électeurs au total qui avaient largement plébiscité Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Il semble donc quand même que certains, déçus par l'affiche de cette finale présidentielle, ont préféré bouder les urnes aujourd'hui. Et pour les autres, beaucoup admettent voter sans aucune conviction. Et on entend parfois dans les bureaux de vote des expressions désormais célèbres. « J'ai dû choisir entre la peste et le choléra », dit un jeune homme. « J'ai voté, mais en me bouchant le nez », explique une dame. Des expressions fleuri, comme pour qualifier un ras-le-bol partagé par beaucoup de Toulousains, l'impression de subir plutôt que de choisir.
Hugo Charpentier à Toulouse, merci. On termine notre tour des bureaux de vote dans le Rhône, à Lyon. Et à Lyon, comme dans les grandes villes, le report des voix de gauche est l'une des clés de ce scrutin. Reportage dans le 3e arrondissement, au centre de Lyon, près du quartier de la Part-Dieu. Mathilde Lamberti.
Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde, moi. Hein ?
L'impression d'une fréquentation en baisse à l'ouverture du bureau de vote, ressentie d'une électrice du 3e arrondissement, confirmée par les assesseurs qui ne voient plus les mêmes files d'attente qu'il y a 2 semaines, même si la cadence s'est accélérée en milieu de matinée. Max a voté en quelques minutes seulement avant d'attaquer sa randonnée dominicale.
Ah oui, ben ça c'est systématique. Je ne vais pas dire qu'on se force, mais enfin, même si on a des obligations autres, il faut absolument qu'on vienne aux urnes.
Dans le bureau de vote du 3e arrondissement, présidé par Akif Ekinci, la participation a été élevée au premier tour, plus de 80%. Il espère un bis repetita pour ce deuxième.
Alors effectivement, avec les vacances, il se peut qu'il y ait, on va dire, un ralentissement du rythme. Mais il n'empêche que beaucoup de personnes se déplacent quand même pour des procurations. Et donc, ce qui permet de garantir bien l'exercice démocratique.
Bonjour. Il n'y a pas de souci. Alors, dites-moi, c'est pour qui ?
Effectivement, davantage de procurations aujourd'hui. 60 procurations pour 900 électeurs dans ce bureau de vote. Hugues, 39 ans, a mis 2 enveloppes dans l'urne.
C'était pour ma mère, voilà, qui est en vacances avec mes enfants, voilà. Donc, qui est en train de s'amuser. Et du coup, j'ai voté à sa place.
Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et la soirée électorale se prépare pour les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron et leurs 2 militants. On va se rendre dans les 2 lieux choisis par les candidats et leurs états-majors pour cette soirée. C'est là qu'auront lieu les bravos et les cris de joie dans le camp du vainqueur et les soupirs ou les pleurs dans le camp du vaincu à 20h à l'annonce des premières estimations. D'abord La République en marche, mais juste avant d'aller au Champ de Mars où Emmanuel Macron et ses militants vont se retrouver donc ce soir. On va au QG de campagne d'Emmanuel Macron à Paris dans le 8e arrondissement. On retrouve Maxence Lambrecq sur la moto France Inter. Bonsoir Maxence.
Bonsoir Frédéric.
Et on vous retrouve parce qu'il y a une réunion en ce moment des ténors du parti.
Oui, on vient de voir passer un tiers du gouvernement à peu près ici rue du Rocher dans le 8e arrondissement. Elisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa avec sa veste rose, Christophe Castaner qui a salué un les policiers ici présents à l'entrée où on voit sur la façade de ce QG les deux mots, le slogan de cette campagne avec vous. Ce qui anime cette réunion, ce sont les patrons de la communication de cette campagne, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et le conseiller d'Emmanuel Macron, Clément Léonard Duzzi. Tous deux sont en train de donner en ce moment les éléments de langage, les adjectifs, les bons mots pour 20h. Pour tous ceux qui iront sur les plateaux, ils partiront d'ici dans une demi-heure à peu près. Ils ont suffisamment d'informations, les premières centaines de bulletins dépouillés dans les bureaux de vote qui ont déjà fermé à 18h, ce qui leur permet déjà de donner le ton, en tout cas la tonalité, ces éléments qu'Emmanuel Macron lui-même analyse depuis l'Élysée à quelques centaines de mètres d'ici.
Maxence Lambrecq avec Geoffrey Marianne, merci. On va donc justement au Champ de Mars où Emmanuel Macron donc et ses militants vont vivre cette soirée sur place en direct. On retrouve Simon Le Baron. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Et Emmanuel Macron s'exprimera au pied de la Tour Eiffel après l'annonce des résultats.
Oui, et vous qui avez déjà visité cette Tour Eiffel, vous savez à quel point cette esplanade du Champ de Mars est immense. Alors vous imaginez peut-être un grand rassemblement ce soir. Eh bien pas du tout. Le Champ de Mars, certes, a été complètement évacué cet après-midi par la police, mais seule une petite partie a été privatisée. Comme souvent, en fait, dans cette campagne d'Emmanuel Macron, la soirée est pensée avant tout pour l'image, la scène hexagonale sur laquelle montera tout à l'heure le président sortant, même en cas de défaite, nous dit son équipe. Tout autour, il y aura les cadres de la Macronie, la Tour Eiffel donc pour décor, comme en 2017 la pyramide du Louvre, et puis quelques centaines de militants pour agiter les drapeaux. Mais comme il y a 15 jours, porte de Versailles, il ne devrait même pas être plus nombreux ces militants que les journalistes. Nous sommes en tout 1300 journalistes accrédités de 44 pays. Vous l'avez compris, ce soir pour Emmanuel Macron, l'important c'est la photo qui restera, espère-t-il, dans l'histoire, celle du premier président de la 5e réélu hors cohabitation. C'est ça qui est important, bien plus que la ferveur populaire.
Simon Le Baron avec Marc Garvenès. Marine Le Pen, de son côté, va passer cette soirée électorale du second tour au pavillon d'Armenonville, dans le bois de Boulogne. Sur place, on vous retrouve. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Et les militants du Rassemblement National sont prêts pour cette soirée. Marine Le Pen vient d'arriver.
Oui, Marine Le Pen sur place depuis un petit quart d'heure maintenant, arrivée très discrètement par une porte dérobée au pavillon d'Armenonville situé en bordure du bois de Boulogne. Marine Le Pen qui s'est aussitôt retranchée dans une loge cossue à l'étage du pavillon avec terrasse donnant sur un étang et des marronniers en fleurs, accompagnée comme d'habitude de sa garde rapprochée, une quinzaine de personnes. On a aperçu David Rachline, maire de Fréjus, le député du Pas-de-Calais Bruno Bild, Sébastien Chenu, député du Nord. Au rez-de-chaussée où moi je me trouve, une nuée de caméras, 500 journalistes accrédités, c'est un peu plus qu'au premier tour. Alors dans l'heure qui vient, évidemment, Marine Le Pen va peaufiner son discours. Deux versions sont d'ores et déjà écrites. En cas de défaite, c'est ici que Marine Le Pen s'exprimera. En cas de victoire, direction Place de la Concorde à Paris, où pour l'instant, reconnaît l'entourage, aucune scène ni sono n'a été montée.
Élodie Forêt avec Benjamin Thuot. Dans l'actualité, ce soir également, la guerre en Ukraine entrée aujourd'hui dans son troisième mois et les combats se poursuivent dans le Donbass et dans le sud du pays. À Kiev aujourd'hui, première visite officielle du représentant du gouvernement américain Anthony Blinken depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il demande des armes aux États-Unis. Envoyé spécial en Ukraine, Farid Danoir.
Des armes encore plus lourdes et puissantes, c'est ce que souhaite obtenir Volodymyr Zelensky pour contrer l'offensive des Russes dans le Donbass, et il le demandera Anthony Blinken et Lloyd Austin. Les Américains ont déjà sorti plusieurs enveloppes, dernière en date annoncée en milieu de semaine, une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars. Elle comprend des obusiers et leurs véhicules, 144 000 obus, 121 drones suicides. Précédemment, Washington avait déjà mis sur la table une aide incluant des véhicules blindés, de l'artillerie, fournie ou promis 1400 systèmes antiaériens, 5000 missiles anti-char Javelin, des roquettes à guidage laser ou encore des systèmes de communication sécurisés. Lors de cette rencontre, Volodymyr Zelensky veut aussi parler avec les représentants américains de la liste exacte des armes nécessaires au pays et du rythme des livraisons. Roman, jeune Ukrainien habitant à Kiev, souhaite qu'elle s'accélère.
On est très reconnaissant pour toute l'aide qu'on a reçue, mais en même temps, on aimerait que la réaction soit encore plus déterminée. Chaque heure compte.
Depuis le début de l'offensive, l'aide militaire américaine à l'Ukraine se monte aujourd'hui à plus de 4 milliards de dollars.
Un mot de l'actualité sportive ce dimanche en cyclisme avec la lourde chute de Julian Alaphilippe lors de Liège-Bastogne-Liège. Le champion du monde français a été pris dans une chute collective au cœur du peloton à 62 km de l'arrivée. Julian Alaphilippe a été pris en charge par les équipes médicales. Il souffre au niveau du dos. Victoire en solitaire du Belge Remco Evenepoel. Le temps pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski.
Un temps sec et souvent ensoleillé au nord de la Seine, du sud de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie et autour de la Méditerranée. Le ciel va nettement se dégager en seconde partie de journée, alors que partout ailleurs, les nuages d'averses et parfois d'orages vont continuer à circuler, donnant d'ailleurs pas mal de pluie, en particulier de la Bretagne au centre Val-de-Loire, sur le Massif central et la Bourgogne-Franche-Comté, et de fortes averses encore une grande partie de l'après-midi sur la Corse. La tramontane et les rafales d'ouest entre Corse et continent seront proches de 80 km à l'heure. Et puis, le long de la Manche, le flux de secteur nord-est va rester sensible, avec des températures en baisse par rapport à hier sur l'est du pays, de l'ordre de 3 à 4 degrés de moins. En revanche, il fera jusqu'à 5 degrés de plus dans le quart sud-ouest. Ailleurs, les valeurs vont conserver à peu près le même niveau.